Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, déménagement à venir de la ressourcerie La Belle Déchette à Rennes, le quatrième épisode de Dal Kennedy, une série à la rencontre des habitants de Villejean, aujourd'hui en compagnie d'Irène. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage sur itinéraire sensible, projet de cartographie avec les usagers du campus de l'université Rennes 2, et puis recommandation, une conférence sur l'évolution des femmes, c'est au champ libre. Bienvenue dans l'arène. Vous le savez, tous les jours, on commence d'abord avec une info du jour que je choisis pour vous dans la presse locale et parfois dans ce qu'on me fait parvenir. Je passe en une phrase sur l'ouverture sans condition des parcs relais Cesson Via Silva et Saint-Jacques-Guetté, en tout cas jusqu'à la réouverture de la ligne B. Je vous le dis puisque c'est quand même pratique. Mais on va surtout parler du déménagement de la ressourcerie La Belle Déchette. On prend un tout petit peu d'avance puisque l'inauguration, c'est samedi prochain, le 27 janvier. Et ce sera l'occasion de découvrir la nouvelle adresse du pôle valorisation et de la boutique La Réserve, direction les Halles en commun dans le quartier Courrouze, où cohabitent déjà une quinzaine de structures culturelles et artistiques pour l'essentiel. Il faudra attendre un petit peu pour l'accessibilité en métro d'ici la fin du trimestre a priori, mais il reste le bus pour y aller dès maintenant. Peinture, ponçage, soudure, montage de racks, isolation. Une centaine de personnes ont travaillé dur autour de ce projet de déménagement, des bénévoles de l'association, mais aussi les salariés et puis des artisans et partenaires. Évidemment, pour coller à l'ambition de La Belle Déchette, l'espace de 1200 m² en tout, il a été aménagé principalement avec des matériaux et meubles de réemploi. On peut donner un exemple, l'isolation des bureaux, elle a été réalisée avec un matériau issu de textiles en fin de vie du relais. Ce nouveau terrain de jeu, il vient aujourd'hui s'ajouter à la boutique généraliste qui est toujours en centre-ville à Rennes. Et la nouveauté, au Hall de la Courrouze, eh bien, c'est un atelier qui offrira à partir du mois de mars un lieu de création aux professionnels, particuliers et artistes intéressés pour créer à partir de matériaux directement issus de la ressourcerie. Pour le pôle de valorisation, pas besoin d'attendre, les réservations des créneaux d'apport volontaire, si vous avez des choses à déposer, eh bien, ils sont déjà ouverts sur le site internet labeldéchette.com et la boutique La Réserve, elle ouvrira donc ses portes le week-end prochain, samedi 27 janvier de 13h à 18h et l'adresse c'est au 24 avenue Jules Magnez dans le quartier Courrouze à Rennes. Allez, après cette info du jour, place à un premier reportage. Et ce reportage, c'est l'épisode 4 de la série Dal Kennedy, des portraits radiophoniques d'habitants du quartier Villejean, histoire de donner la parole à des citoyens qui sont peu présents dans les principaux médias français. Aujourd'hui, pour l'épisode du mois de janvier, vous allez entendre Irène, technicienne de service à la ville de Rennes. Elle est maman de 5 enfants et exilée congolaise. Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants de quartiers populaires. Alors, toute l'année, je vous propose de les écouter.
Je viens du Congo-Brazzaville, ancienne colonie française. On a eu des maisons brûlées, des gens tués. Ça me fait plaisir d'être ici en France parce que je ne vois plus l'image que j'avais auparavant de la guerre.
Irène,
oui.
Lucie,
bonjour.
Enchantée.
Enchantée, merci beaucoup.
Merci de me retrouver ici.
Oui. Donc, je m'appelle Irène Bilombo. Je suis la maman de 5 enfants. J'habite à Villejean depuis 2009. Donc j'ai passé la majorité de mon temps ici. Et j'adore le quartier par rapport à la maison du quartier, au centre social, les activités qu'ils proposent au niveau des familles. C'est vraiment très intéressant. On a profité aussi d'aller à Lille étudier grâce au centre social. On a fait beaucoup d'activités avec les enfants grâce au centre social. Et la ludothèque aussi propose beaucoup de jeux pour les enfants pour ne pas s'ennuyer. et rester à la maison.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
35 ans.
Et pour finir de vous présenter, est-ce que je peux vous demander si vous êtes maman au foyer, si vous avez un emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est quoi votre situation ?
Oui, je suis la maman, pas au foyer, mais je travaille à la ville de Rennes. Je suis technicienne adjointe depuis 2018. Donc je travaille avec les enfants dans les cantines scolaires.
Est-ce que vous pouvez me raconter si vous avez déjà été interviewée par des journalistes radio, télévision ?
Oui, j'étais déjà interviewée par France 3 par rapport à l'orientation professionnelle des enfants parce qu'on avait remarqué la majorité des enfants étaient proposés d'aller vers l'école professionnelle. Il s'avère qu'un enfant, à la longue, on ne sait pas quel métier l'enfant devait choisir, s'il peut être professeur, s'il peut être dentiste, il peut faire beaucoup de choses par rapport à son orientation. Donc j'ai France 3 qui m'a interviewée, donc du coup l'enfant a été pris au lycée général.
Ils sont rendus où vos enfants dans le cursus scolaire ?
Mais là j'ai mon premier garçon, lui c'est la musique, et là il reprend le foot et dans tout ce qui est restauration lui. Et le deuxième, il est au lycée en seconde. Le troisième, il est au collège Émile Zola. Et le quatrième, à l'école Jean Moulin en CM2. Et le dernier en CE1 à l'école Jean Moulin.
Donc vous êtes à Villejean depuis presque 15 ans, c'est
oui,
ça
oui,
en fait
oui, oui.
Est-ce que vous pouvez me décrire votre lieu de vie où vous habitez? C'est dans quel coin du quartier et à quoi ressemble votre habitat?
Auparavant, j'étais au Square de Provence, donc derrière l'école Jean Moulin. C'était un endroit calme et tranquille, mais comme on avait beaucoup d'enfants, il fallait qu'on puisse déménager, donc j'ai demander à rester à Villejean. Donc au moment où je vous parle, je suis derrière l'ancien laboratoire de Villejean. C'est un endroit aussi calme, j'ai jamais eu de problème. Parce que donc les gens parlent de Villejean, je sais bien, il y en a qui ont subi, mais moi depuis que je suis là, j'ai jamais eu de problème.
Et vous êtes donc en appartement ?
En appartement, oui, avec Néotois.
Qui est un bailleur
social. Bailleur social, oui. Je viens du Congo-Brazzaville, l'ancienne colonie française.
Et vous êtes arrivée quand en France ?
Ça date, c'était en 2004.
C'était en Il y a 2004.
20 ans ? Oui, mon fils, parce que mon fils a maintenant 18 ans, le plus grand. Donc, oui.
C'était avant d'avoir votre premier fils ?
Oui, oui, oui.
Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a amené à quitter le Congo-Brazzaville ?
C'est par rapport aux événements, parce qu'on a eu la guerre en 1997, la guerre où il y a eu beaucoup de guerres, où il y a eu beaucoup de personnes tuées, on a vu des gens mourir devant nous. On est parti de l'autre côté de Congo-Kinshasa pour fuir la guerre parce qu'on ne pouvait plus rester dans le sud, parce que nous sommes du sud, donc c'était très très compliqué. On a eu des maisons brûlées, des gens tués, on a vu beaucoup de choses traumatisantes, donc on s'est dit... Pourquoi pas quitter le pays, aller s'exiler ailleurs, changer un peu la façon de vivre. Ça me fait plaisir d'être ici en France parce que je vois plus l'image que j'avais auparavant de la guerre, même si de gauche à droite on parle de la guerre, mais la France est un pays qui respecte le droit de l'homme, donc moi je suis vraiment très ravie d'être dans le territoire français.
Avant d'arriver à Villejean, est-ce qu'il y a des éléments de votre parcours que vous souhaitez me raconter sur votre parcours de vie ?
Moi, avant d'arriver à Villejean, j'ai passé mon temps à... On appelle ça le foyer Chrysalis. C'est un foyer qui reçoit les mineurs en difficulté. Donc, j'ai passé la majorité de mon temps là-bas. Et quand je suis tombée enceinte, je suis partie de l'autre côté du Morbihan. Il y a un foyer aussi qui accueille les femmes enceintes. Donc, j'ai passé une année là-bas. Je suis encore revenue à Rennes. C'est là où j'habitais à Cluny. J'ai passé plus de 3 ans là-bas avant d'arriver à Villejean. J'aimerais parler, c'est parce que je suis arrivée, j'étais mineure. J'ai pas eu regroupé tous mes documents pour la nationalité française. Donc là, déposer à nouveau le dossier, donc je suis en train d'attendre d'avoir la nationalité française.
Pour essayer de comprendre qui vous êtes, si vous deviez choisir une qualité et un défaut chez vous?
La qualité partout, je vois, dans mon travail, partout. Je suis la personne qui aime tout le monde. Je m'adapte dès le premier jour, je peux m'adapter dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel endroit, parce que je suis comme ça, je m'adapte facilement. Il n'y a jamais eu de problème depuis que je suis là, depuis que je travaille, j'ai jamais eu de problème entre collègues ou que ce soit. En défaut, j'aime bien qu'on puisse me dire la vérité. S'il y a quelque chose que tu as vu en moi, j'aimerais bien que la personne puisse venir me dire ça en face. J'aime pas les gens qui parlent derrière mon dos.
Est-ce que vous avez exercé d'autres métiers avant de travailler comme technicienne
à la ville de
Rennes,
Oui.
Auprès des enfants?
J'ai essayé de faire plusieurs stages à la maison de retraite parce que j'avais voulu faire l'auxiliaire de vie ou aide-soignante. Mais bon, je me suis dit que ce n'est pas dans mon domaine. C'est pour cela que j'avais choisi la restauration. J'ai fait 6 mois de formation et j'ai travaillé dans plusieurs restaurations, La Poste, France Télécom, avant que je puisse aller travailler à la ville de Rennes.
Comment est-ce que vous vivez dans ce quartier? Est-ce qu'il y a des lieux, des associations, des commerces que vous fréquentez plus que les autres?
Les associations, il y a l'association Saint-Hélier qui est auparavant, parce que quand j'étais en congé parental, j'ai participé à l'association des manifestations. Et il y a aussi la Mosaïque, parce que les enfants souvent faisaient leurs activités là-bas.
Petite correction, l'association évoquée par Irène, c'est Si on s'alliait, qu'on retrouve pour des permanences à la maison de quartier les mardis et jeudis, qui mènent notamment des mobilisations avec les habitants. Et pour Mosaïque, Mosaïque Bretagne-Maroc, c'est une asso qui défend le vivre ensemble qu'on trouve sur la Dell Kennedy et qui propose entre autres choses du soutien scolaire.
Et il y a aussi le centre social où on avait créé des chansons pour enfants. Et je participais aussi aux sorties. Et il y a le centre commercial, souvent c'est le carrefour qui est non loin. Mmh. C'est le centre commercial, j'utilise presque, je rentre là tous les jours au centre commercial Carrefour.
Au centre social, vous êtes toujours, adhérente pour profiter des sorties?
Oui, je suis toujours adhérente parce qu'on me connaît bien là-bas. Donc de temps en temps, on m'appelle Irène, il y a des sorties si tu veux participer. Mais souvent c'est un peu compliqué parce que pendant des années, j'étais à temps plein avec la ville de Rennes, donc je ne participais plus aux sorties du centre social.
Vous n'aviez pas le temps. Dans le quartier Villejean, quel est votre réseau de connaissances? Vous avez des groupes d'amis?
Sur le quartier, pas vraiment les amis, mais moi, j'aime discuter avec tout le monde, les voisins, les voisines, les personnes que j'encontre, les mamies, les papis, dire bonjour, demander si ça va, s'il y a des questions. Et souvent, les gens me parlent de leur histoire. Si je peux aider aussi, je signale où il peut aller pour les aider.
Est-ce que vous avez des engagements associatifs ou des combats, des sujets pour lesquels vous vous battez?
Mais pour le moment, c'est avec régime par rapport aux droits de la femme, par rapport à notre copine qui a été tuée.
Vous faites donc peut-être partie du collectif?
Oui, de temps passé par rapport à la disponibilité, donc je soutiens.
Vous venez de citer le nom de Marie. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que c'était une habitante à Villejean qui a été tuée par son conjoint de l'époque, en 2022. Oui. Vous la connaissiez?
Oui, je l'ai connue parce que sous couvert d'une copine, dès que je suis arrivée, on était au foyer. C'est là où la copine s'était, ils habitaient ensemble, Congo-Kinshasa. Donc je l'ai connue depuis que je suis rentrée à Rennes. Mm. C'est une dame qui était bien, on se voyait tout le temps. Parce que moi, j'ai déposé les enfants à Jean Moulin. Elle, elle déposait les enfants à l'école privée qui est là à côté.
Ça a créé beaucoup d'émotions dans le quartier Villejean avec donc une mobilisation du collectif Kouné, fondé par Régine Comocoli, qu'on a déjà entendu dans cette série de portraits.
Beaucoup d'émotions, ce qui concerne surtout les enfants. Les enfants sont encore jeunes, c'est presque l'âge de mes enfants, donc ça nous a vraiment choqués.
On dit peut-être un mot sur un de vos projets, puisqu'on s'est déjà rencontrés pas très loin à l'ESS Cargo. C'était en 2023, j'ai plus exactement le moment de l'année en tête. Vous étiez en train de créer un jeu de société.
Oui, j'avais créé un jeu nommé Jeu de liberté. C'est un jeu éducatif. Il peut se jouer en famille, entre amis. Ce jeu a pour le but de développement culturel et permet aux enfants de laisser leurs écrans. Parce que de nos jours, les enfants sont concentrés souvent à regarder beaucoup de tout ce qui est télé, les écrans. Donc moi, c'était le but de changer un peu la vie des enfants, de rester jouer, le toucher, parce que c'est un jeu qui est en PVC. Il y a des cartes quiz et des cartes liberté. Donc ça part de plusieurs métiers. Et leur rôle, exemple, le rôle de sénateur, le rôle de député.
Vous en avez produit combien d'exemplaires de ce jeu-là?
J'avais produit 100 et là, j'ai commandé 200. Donc, il y a le centre social qui m'a soutenu. Ils ont acheté aussi la ludothèque, le Kléber. Ça se vend maintenant au forum de livres.
Alors vos enfants, ils ont des quoi? Des téléphones ou des...
J'ai que deux enfants qui ont des téléphones.
Les mon plus
fils
grands.
De 15 ans, il n'a pas le téléphone. Mon fils qui est en CM2, il n'a pas le téléphone. S'il veut regarder, c'est avec mon téléphone parce que c'est très compliqué. Donc on est obligé, même pour le plus grand, de reprendre le téléphone pour dormir parce que l'enfant peut dire « Non, je suis parti dormir ». Il ne dort pas, il est en train de regarder sur son couette, là, son téléphone. Alors que ça détruit le lendemain, l'enfant qui se réveille, il est très fatigué, il ne peut pas suivre en classe.
Vous avez l'air d'avoir un quotidien qui est bien rempli entre votre travail, vos cinq enfants. Vous prenez le temps de créer un jeu de société, vous êtes dans différentes associations. Comment vous diriez que vous vous sentez dans cette vie-là? Du coup, vous êtes épanouie, il y a peut-être de la fatigue.
Oui, je suis épanouie, j'aime bien bouger, j'aime pas rester sur place, j'aime bien participer. Si ça peut aider, surtout les enfants ou que ce soit les adultes, moi j'aime bien aider. Donc je ne suis pas fatiguée. Je bouge beaucoup. La fois passée, même j'étais à la réunion de la mairie du quartier. Il y avait organisé la réunion. J'ai quitté mon travail. Je suis partie participer à la réunion. Parce que je trouve que c'est important. Parce que si les gens ne participent pas, le quartier ne peut pas évoluer. Parce que le quartier de ville, genre, besoin d'évoluer, a besoin de changer. Il ne faut pas qu'on puisse voir les dealers, les jeunes, c'est les futurs cadres de demain. Il faut qu'on puisse les soutenir aussi. Et j'aime bien écrire, comme la fois passée, j'avais écrit la poésie. Mon fils m'avait demandé, il partait au Sénat avec l'école. Donc il m'a demandé, maman, je pars au Sénat. Moi, je lui ai dit, attends, je vais te donner quelque chose. Donc j'ai écrit la poésie, je ne sais pas si je peux vous lire ça, ouais, si vous voulez. La majorité des sénateurs ont aimé la poésie, ils ont demandé qu'on puisse envoyer ça. Donc la poésie que j'avais écrite, la vie. Donc la vie sans l'eau n'est rien, parce que l'eau c'est la vie. La joie sans la tristesse n'est rien, parce que on vit pour. Le futur sans la jeunesse n'est rien, parce que les jeunes sont les cadres de demain. Le monde sans nos aînés, c'est un monde perdu. On ne connaîtra pas l'histoire. Le monde sans les étrangers, c'est un monde égoïste, parce qu'on est tous des étrangers sur Terre. Tout est utile, mais tout n'est pas permis pour nos jeunes. Tout homme, quel que soit son handicap, mérite d'être soutenu. Tenons-nous de main à la main. Irène Bilombo, pensez-y.
Et sur la musique, est-ce qu'il y a un groupe que vous aimez en particulier?
J'écoute en musique, j'écoute un peu de tout. Céline Dio. J'aime les chansons, Kofi, les chansons qui sont congolais. J'aime Kofi Olomide, écouter aussi sa musique de Kofi Olomide. J'aime mon fils qui chante aussi, qui fait la musique, il fait du rap. Donc j'écoute aussi un peu ses chansons. Mais je ne suis pas vraiment trop...
Pas fan.
Oui, pas fan, oui.
Moi c'est Kitoko, Olinga Kabouye, Serge Kassanda.
The Weekend Star avec le morceau All the Lights sur Canal B. C'était une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio Canal B, et issu d'un EP 6 titres qui est sorti le 8 décembre 2023 chez We Want to Record. Le premier disque pour The Weekend Star, qui est un trio normand. Voilà, vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr avec une émission, donc La Reine, qui vous parle d'info locale du lundi au vendredi à travers des sujets long format. On y parle régulièrement mobilisation sociale, politique locale, vie associative, étudiante ou encore militantisme au pluriel. Si vous avez des événements ou des actions à annoncer qui rentrent un peu dans ces champs-là, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une rencontre ici au micro, en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain. On peut aussi l'évoquer plus rapidement lors de recommandations en fin d'émission. Mais pour le moment, on poursuit cette émission avec un deuxième reportage. Et direction le Tambour à Rennes, où avait lieu un temps de restitution ce lundi 22 janvier sur le temps du midi. Itinéraire sensible, c'est le nom du projet présenté qui a été mené par l'agence Sensible sur le campus de l'université Rennes 2 depuis le mois de septembre 2023. L'objectif, il est atteint, c'était de réaliser des cartes qui laissent la place aux sensations, aux souvenirs, à la subjectivité, quoi. Des cartes réalisées avec des étudiants, des habitants et membres du personnel de l'université. À voir au Tambour jusqu'à la fin du mois de février. Les explications tout de suite.
Alors nous sommes sur le campus de Rennes 2 et nous voyons de grandes cartes sensibles, donc qui sont des grandes cartes papier qui font 2,20 m sur 1,50 m qui donnent à voir le ressenti des gens sur le campus de Rennes 2. Donc ce qu'on donne à voir, c'est pas une bête carte géographique, mais c'est des ressentis, des sensations, une vision sensible en fait du campus. Alors je m'appelle Marion et je travaille à l'Agence Sensible. L'Agence Sensible, c'est une association qui crée des projets artistiques avec des habitants sur des territoires.
On se retrouve sur un temps de restitution ce lundi 22 janvier. Donc avec encore plein de monde en train d'observer les cartes. On représente l'Agence Sensible. Il y a qui dans les équipes, vos missions principales?
Là, ce qui s'est passé, c'est que l'Agence Sensible a été sollicitée par le service culturel de Rennes 2 pour accompagner ce travail de carte sensible. Plutôt nous, par rapport à nos capacités à fédérer et à travailler sur l'intelligence collective. Dans l'Agence Sensible, on est deux salariés, Emmanuel et moi-même Marion, donc. Et donc on était tous les deux sur ce projet-là depuis... on a commencé en 2022, mais on a commencé de façon pratique avec les étudiants en septembre.
Ça existe depuis quand, l'Agence Sensible?
Ah, depuis 4 ans. Et on travaille sur des territoires différents. Donc là, par exemple, on va repartir dans une semaine, on sera à Clenay. Et on va monter un projet artistique à Clenay avec des habitants.
Peut-être dire en 4 ans les méthodes que vous utilisez et puis le type de projet sur lesquels vous avez déjà travaillé.
Alors on s'inspire vraiment des territoires pour monter des projets. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle des nichages. Donc on installe nos bureaux sur les territoires chez des partenaires sur des périodes de 5 à 6 mois. Et on fait comme ça plusieurs nichages au sein d'un même quartier afin de définir un peu ce qui fait l'intérêt de ces quartiers-là pour créer des projets participatifs qui résonnent vraiment en lien avec les envies et les besoins des habitants. Les médias vont être très divers. Alors on fait beaucoup de collectes de parole, mais on peut faire aussi de la photo, on fait pas mal de collages dans l'espace public, on a travaillé autour du chant, on peut faire également des podcasts, enfin, voilà, c'est assez varié en fonction des envies un peu des gens. Donc, un projet qui a eu déjà 2 éditions, il y a une 3e en préparation, c'est un projet qui s'appelle Au Lécoeur et c'est un projet qui travaille sur des portraits de femmes courageuses, donc des portraits qui sont à la fois en mots, en texte, en photo, et on fait également des très grandes affiches qu'on colle absolument partout dans l'espace public avec ses participantes.
Voilà. On les a déjà vus dans le quartier du Blône, non?
On les a vus dans le quartier du Blône, bravo, à Clunet également. Et bientôt, ce sera sur le quartier de Champmanceau et avec le centre pénitentiaire pour des femmes.
C'était quoi la commande de l'université Rennes 2 sur le projet pour lequel on se retrouve?
Donc c'était de créer trois cartes sensibles avec ces trois regards, habitants, personnels et étudiants, avec un peu l'idée derrière de se dire que en mettant en résonance un peu ces trois cartes, sans doute il y a des choses qui allaient ressortir, et puis que même chacune de ces cartes d'ailleurs allait permettre sans doute peut-être de faire bouger des petites choses sur l'université. Par exemple sur la carte des étudiants, il y a des points d'accessibilité compliqués qui sont ressortis, il va y avoir des ressentis sur certains bâtiments qui sont très négatifs, d'autres plus positifs. Donc toutes ces choses-là, ça peut être après, derrière, un petit peu repris en fait en charge par l'université globalement, à différents services, pour améliorer les choses.
Il faut redire que ce travail, il fait suite à une exposition qui avait été montrée ici, « Ceci n'est pas un atlas », en 2023, réalisé notamment avec l'historienne Neftis Zver. Ma question, c'était de vous demander... Habituellement, la carte, c'est quelque chose d'un peu froid. Là, on y voit beaucoup de ressentis. Est-ce que c'était pour vous aussi quelque chose de nouveau pour l'agence sensible ?
Alors, nous, on a déjà travaillé sur des cartes sensibles. La cartographie sensible, c'est un outil de représentation du réel de façon sensible et sublimée qui est super précieux, en fait, parce qu'on peut en faire des milliards de choses différentes. Et notamment, dans l'exposition This is not an atlas, c'était des cartographies politiques. Qui montrait vraiment des problèmes politiques sur des territoires donnés. Là, évidemment, on est loin de ça, mais non, c'est un outil absolument magique dont s'emparent de plus en plus d'artistes et de géographes, qui est vraiment un peu entre ces deux domaines, et dont tout le monde peut s'emparer d'ailleurs. Et c'est le cas, ça bouge, il y a de plus en plus de gens qui font de la cartographie sensible.
Quel est le travail qui a abouti là, sur ces cartes ? Quels rendez-vous ont été donnés et sur quelle durée ?
Alors, à partir de septembre dernier, on a invité du coup des étudiants à venir travailler avec nous. Ils ont été une vingtaine à répondre à cet appel de 7 filières différentes, comme art plastique, design graphique, géographie, sociologie, ERCAPS et littérature comparée. Et c'est eux qui ont déterminé sur quel axe ils souhaitaient travailler sur chacune de ces cartes, qui ont déterminé la façon dont ils allaient faire les collectes et qui ont déterminé la mise en forme de ces fameuses cartes sensibles. Nous, on a vraiment été là pour leur fournir les outils qui leur permettraient de mettre en place tout ça et travailler cette intelligence collective, justement cette notion de faire groupe, puisque eux venaient de matières très différentes, avec des compétences différentes. Et donc, il était important aussi de trouver un langage commun pour pouvoir avancer.
Ça, c'était avec les étudiants et donc les habitants. Il y en a eu combien à participer ? Par quel biais ? Les personnels ?
Alors, on est à peu près à une trentaine de participants par carte. Donc c'était soit des ateliers de collecte en collectif, soit de la collecte sauvage, soit il y a eu des entretiens individuels également. Donc voilà, ça a pris vraiment des formes différentes en fonction des cartes. Et évidemment, les habitants de base, c'est plus complexe parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un habitant sur le campus de Rennes 2, c'est pas marqué sur sa tête. Donc il fallait aller les trouver. Donc forcément, on a eu des partenaires sur le quartier, la direction de quartier, le centre social, mais ils ont aussi fait pas mal de collectes volantes. Donc ça dépendait vraiment du public ciblé.
Le résultat, donc trois grandes cartes à découvrir au tambour, on peut les voir jusqu'à quand ces cartes-là ?
Jusqu'aux vacances de février, jusqu'au 23.
Donc on peut venir les découvrir au tambour. Est-ce qu'on peut dire un peu un mot sur chaque carte, ce qui en ressort et peut-être ce qu'on peut y voir ? C'est pas la même chose à chaque fois, là il y a des photographies notamment devant nous pour ce qui est du regard étudiant.
Ouais, la carte des étudiants, donc, c'est une carte qui a été faite à base de photographies. Sur chacune des cartes, c'est différent. Donc, photographie pour la carte des étudiants, du collage sur la carte des personnels et du dessin sur la carte des habitants. Donc ça s'est fait à la fois en termes de cohérence et puis en fonction aussi des compétences des uns et des autres sur les cartes. Sur la carte des étudiants, donc, ils ont travaillé sur la question d'ouverture et de fermeture et des dynamiques un peu de déplacement, de mobilité, d'accessibilité. Sur la carte des habitants, là c'était plutôt ouverture et fermeture sur le campus, c'était des questions de légitimité et d'illégitimité ainsi que les usages des habitants sur le campus. Et puis sur la dernière carte, on était les personnels plutôt sur des retours autour de sentiments, de sensations et d'anecdotes, plus sur quelque chose de l'ordre de l'intime.
Beaucoup d'habitants et d'habitantes, Rennes 2, c'est une grosse boîte noire, une barre. On ne voit pas le cœur du campus depuis l'extérieur. La seule visibilité, elle est au niveau de l'arche du métro. On voit des vigiles sur le campus. Peut-être qu'on n'a pas le droit d'être là. On est étranger à la fac. Il y a des tables de pique-nique sur le campus, mais les habitants et habitantes n'osent pas les utiliser. Il y a des frontières symboliques. Il y a une impression de mur de verre vis-à-vis du quartier. Mais pendant les vacances, comme le campus est vide, les habitants et habitantes s'enhardissent et viennent à l'intérieur. On voit des jeunes en scooter, des gens qui se promènent. Le week-end, on voit des gens qui apprennent à conduire sur le parking, qui font des créneaux, des demi-tours. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma cousine qui m'avait écrit en russe. Alors j'ai été sur le campus pour chercher quelqu'un qui pourrait me la traduire. On m'a mis en relation avec un prof, puis avec une étudiante. Elle est ensuite venue chez moi, on a pris un thé ensemble et elle m'a traduit la lettre.
Alors on est sur une carte donc grand format, j'ai plus les dimensions en tête, mais on va dire 2m50 par 1,20 il me semble. On peut commencer par l'extérieur de la carte, donc on voit en fait des images, des photos, des lieux donc de naissance, donc c'est-à-dire d'origine, des personnes qui ont participé à nos ateliers. Bonjour, donc moi c'est Robic Jules, je suis en Master 1 EPRIC donc à l'Université de Rennes 2 et donc j'ai 22 ans. Donc c'était pour ne pas cloisonner en fait les participants dans simplement leur déplacement, mais bien comprendre d'où ils venaient, la mobilité, l'accessibilité, etc. Donc on passe par des villes comme Rennes, allant de Saint-Malo, et pour d'autres, sur Redon, il y a même des pays étrangers qu'on ne voit pas exactement.
Hanoï au Vietnam,
ouais, exactement, je
vois
pas.
Le Sénégal aussi.
Ouais, il y a le Sénégal en bas à gauche. Donc vraiment cette démarche d'origine. Et au centre du coup de cette carte, on voit vraiment donc, la représentation du campus, qui est une représentation ici pour cette carte étudiant plutôt photographique. Donc elle rentre dans un cadre avec des images qui représentent les bâtiments. Donc on peut par exemple simplement pour me concernant le bâtiment B, avoir une photo du tag qui est représenté et qui est un petit peu le symbole de ce bâtiment. Et c'est pareil pour tous les autres bâtiments. Et cette carte, donc forcément, elle est complétée par des citations, des anecdotes des participants et des codes couleurs, donc, qui est représenté par une légende et qui représente par exemple les lieux difficiles d'accès, les lieux appréciés, peu appréciés, les lieux de rendez-vous, les lieux de passage.
Pourquoi vous êtes engagé là dans ce projet itinéraire sensible quand vous avez vu l'appel à projet? En quoi ça vous intéressait?
Alors le projet là rentre aussi dans le cadre d'un cours, donc c'est une participation volontaire, bénévole, etc. Mais on a aussi un autre projet. Quand Marion et Emmanuel sont venus nous présenter le projet, ça nous a parlé de comprendre en fait qu'est-ce qu'est une carte sensible. C'est vraiment pas quelque chose qui est commun entre guillemets. Donc c'est vraiment ça qui nous a parlé. Et puis essayer de comprendre ce qu'on dit pas en fait, qui est plutôt ce qu'on pense pour chaque personne, mais qui n'est pas mis en avant. Mmh. C'est intéressant ici de le signifier et par un résultat final de carte. Quoi.
Vous êtes arrivé quand vous à l'université Rennes 2 et vous venez d'où? Vous êtes breton à la base?
Ouais. Alors moi je suis breton, j'ai fait ma licence 3 en infocom à Rennes 2, donc pendant 3 ans. Et du coup la continuité c'était un master ici en EPRIC. Et donc forcément les questions du campus on le côtoie, on l'utilise, on se déplace, mais on n'en parle pas forcément à part entre on va dire potes, d'explicité des lieux qui nous parlent, etc. Donc là c'est vraiment un petit peu une représentation de tout ça, condensée certes, mais plutôt réaliste quoi.
Je vais reprendre un peu les légendes qui sont sur le côté. Vous, s'il y avait un lieu difficile d'accès, ce serait lequel?
J'aurais tendance à dire, on a eu du mal à le signifier sur la carte aussi, c'est entre le bâtiment A et le bâtiment B un petit peu. En fait, c'est un endroit qui est vachement côtoyé, il y a des transats et il y a une sorte de labyrinthe, en fait, on ne sait pas par où passer. C'est-à-dire qu'autour d'un rond, il y a plein de bâtiments qui gravitent, mais les chemins pour y accéder, c'est un petit peu du slalom. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est difficile d'accès dans le sens où on ne se repère pas forcément très facilement.
Un lieu où vous vous sentez bien, où vous aimez vous installer?
J'aurais tendance à dire l'ABU, sachant qu'il y en a plusieurs. On pense souvent à la grosse BU qui est à côté du métro, mais il y en a plusieurs. C'est un lieu, on va dire, un petit peu reposant, même si elle est souvent liée au travail. On s'y sent bien, quoi. C'est calme et puis il y a de quoi faire pour travailler, quoi.
Les lieux d'affluence, c'est quoi les lieux d'affluence sur le campus?
Nous, on est en com, on côtoie vachement le bâtiment B. J'aurais tendance à dire que le bâtiment B, c'est quand même un lieu d'affluence, surtout le hall. Donc on y circule difficilement sur les heures de pointe.
Et alors, il faut expliquer qu'autour des bâtiments, il y a des phrases, c'est écrit assez petit, là d'où on est, mais qui sont donc des citations qui permettent d'exprimer vraiment des anecdotes ou des souvenirs.
Exactement, ouais. Donc en fait, c'est des citations qu'on a ressorties de nos ateliers, donc de nos entretiens, et ça permet en fait de comprendre comment les personnes en fait voient les choses. Et par exemple, on peut en lire une, hein, je pense au bâtiment F qui se situe tout au sud. Il faut se coller à droite, près de la fenêtre pour avoir Internet. Je ne peux pas y aller, je suis allergique aux acariens. Et ça décrit bien en fait le bâtiment qui est ici référé à la légende donc bleue, les lieux que je n'aime pas fréquenter, que je cherche à éviter.
Et la dernière, c'est, ça me rappelle, les bâtiments du Vietnam.
Ouais, exactement.
Et ma dernière question, vous qui êtes là donc depuis le début de vos études sur le sur ce campus de l'université à Rennes 2, comment est-ce que vous décririez ce lieu, vous qui le connaissez bien?
Je pense que c'est une fac qui est un petit peu spécifique dans le sens où on a vraiment pas que la notion d'études, il y a la notion de vie, la notion de partage, la notion de sport, parce qu'en fait c'est vraiment une, j'ai envie de dire, une petite ville dans un quartier, quoi, ici Villejean ou Kennedy, vu que c'est collé. Moi j'ai plutôt un usage quand même scolaire du campus, mais je sais qu'il y en a qui ont un usage vraiment de vie, de rassemblement, de rencontre, quoi.
Alors on commence très bientôt, fin janvier, un projet sur le quartier de Clenay qui s'appelle Respire. Hein, et ce sont des portraits d'athlètes du quotidien. Donc on s'inspire de la thématique du sport, comme on a les Jeux Olympiques qui seront cet été en France, pour partir un peu de cette idée-là, de se dire que bah oui, les sportifs ont des corps sublimés, font des efforts incroyables, mais que nous, chacun, à notre échelle, on surmonte aussi des épreuves, on se dépasse, on essaye de s'accomplir. Et en travaillant un peu sur ces notions, on va faire des portraits d'habitants. On a donc toute une partie de collecte de paroles. Et puis ensuite, on va faire des photographies d'habitants sublimés avec des accessoires de sport, mais un peu décalés, avec des couleurs assez punchy, qui seront et exposés et collés sur des grandes affiches dans le quartier de Clenay.
Et vous cherchez encore des habitants pour participer ?
On cherche encore quelques habitants. Pas beaucoup, mais encore quelques habitants. Okay. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de venir partager cette aventure avec nous, c'est une aventure qui s'étale entre fin janvier et fin mai. Et on invite vraiment les participants à faire toutes les étapes du projet avec nous, donc de la collecte de paroles jusqu'aux évidemment aux séances photo, mais aussi les temps de collage. Et puis il y a plein de petits temps entre où on va inviter aussi les habitants sur des événements.
Quelques aiguillages plus tard, je vois mes sourcils froncés. À chaque kilomètre, j'ai ramassé que des mauvaises pensées. Tous les wagons sont pleins, rien n'est plus pareil. Première gare desservie, je ralentis.
4 minutes d'arrêt.
Un brouillard épais qui remplit la gare. Je descends griller une sèche, en théorie, je dois pas. La migraine prend mon crâne, j'ai fini la boîte active, aide, le quai est vide. Enfin, je crois, je vois pas à 10 mètres. Si je pouvais changer ce train de vie avec des scies, et puis je vois une tache grise, une silhouette qui me fait des signes. Étrange, ça se rapproche, un air familier, une connaissance très proche mais sans l'amitié. Il découvre son visage, reconnaît ce sourire narquois. C'est Ivan, un mec bizarre, un fou qui me lâche pas. Je l'ai rencontré en formation, c'était il y a 6 ans. Incident, fond de la classe, c'était un accident. Petit à petit, on a fait connaissance. Il est bavard, c'est le hasard. Mais dès le départ, je sens qu'il est pas stable. Il pense mal sur tout le monde, il veut pas qu'on parle aux collègues. Mental obsolète, il veut tout le temps qu'on parte au soleil. Avare, c'est sur son truc, c'est pas le téléthon, c'est d'art. Je sais pas comment faire pour couper les ponts. Je lui fais un signe timide, à peine je lève la main. Intérieurement, je prie pour qu'il prenne pas ce train. On échange quelques mots, l'ambiance s'y prête. Je remonte dans ma cabine, je me retourne, je vois qu'il me suit de près. Je laisse monter sans calculer ses phrases à rallonge. Je remets mon train en marche, rien qui part, le trajet sera long. Est-ce qu'on quitte ce temps plus vieux? Est-ce que t'as réfléchi? Ton entêtement aurait-il fléchi étant plus vieux? Ça commence à être long comme le trajet de l'Orient Express. Tu t'orientes exprès vers ta propre amertume face au manque d'espèces. Ton masque cache une autre peur. Tu crois que je te parle de cash plutôt du bonheur?
Eh, hey, c'est pas de ma faute si j'ai pas eu le bon oeil.
T'oublies les opportunités.
Moi j'ai pas besoin d'une paye de footballeur.
Ok, mais t'es ruiné.
C'est un peu sec ces derniers temps, mais attends, attends, tu veux quoi en fait?
Marre de te voir le moral en berne, je pars en guerre contre les idées noires que t'as en tête.
Tu parles trop,
du calme gros. Qu'est-ce t'es bon à diriger à part un train, par le métro. Les bons moments, tu ne les vis qu'à travers la fenêtre arrière. Tu faisais du son, t'as bégayé quand fallait faire carrière. Toute relation devient tendue, combien de liens fendus. T'as respecté les règles, la société t'a rien rendu. Tu vires dément à conduire des gens qui eux vivent vraiment. Vois tes maux de tête devenir fréquents. Il serait temps de s'exfiltrer de cette vie d'errance. Esquiver discrètement avant de respirer à une vitesse lente. Tu forces sur la tisse pour tenir, dealer avec tes traumatismes. Tu peux toujours me fuir, mais viens, on fait nos valises. Je me devais de tout te dire, ta routine te démoralise, t'es heureux que dans tes souvenirs.
Je perds mon sang-froid, pas les mains.
masque. Je l'attrape par le col, j'en ai marre de l'entendre parler mal. Je lui mets une droite, je vois sa tête qui ricoche. Et puis il me regarde la bouche en sang, rien qui rigole. Il monte le feu rouge que je viens de brûler. Erreur d'aiguillage sur le train de devant, on va buter. Les roues font des étincelles, plus rien à faire. J'abandonne, je ferme les yeux, lancé à pleine vitesse. J'attends le choc.
Hugo, TSR et Jazzy Baz avec le titre Gare Fantôme. C'était le choix musical de Jules, l'étudiant en communication qu'on vient d'entendre dans le reportage. Un morceau à retrouver sur un album qui est sorti en 2023, Jeudi, c'est un EP, dans lequel ce rappeur français indépendant retrace son quotidien de chauffeur de train. Vous écoutez La Reine sur Canal B et avant de se quitter, quand même, la recommandation du jour. Si vous écoutez régulièrement La Reine, vous le savez, on termine toujours avec des conseils de choses à écouter, à voir, souvent à vivre près de chez soi. Aujourd'hui, on annonce une conférence qui s'annonce fort intéressante. Au fait et l'évolution des femmes, c'est la question que posera Pascal Pic mardi 23 janvier à 20h30 au Champ Libre. Pascal Pic, il est paléo-anthropologue, maître de conférences au Collège de France et présenté comme un auteur prolifique sur l'homme avec un grand H, son origine et son évolution. Et l'évolution créée à la femme, c'est l'un des derniers ouvrages qu'il a publié sur le sujet qui sera évoqué mardi. Ça date de 2020. Le livre le plus récent, c'est Itinéraire d'un enfant des 30 glorieuses, sorti lui en 2023. Alors, qui taille des outils? Qui chasse? Qui invente le feu, les arts? Dans les livres d'histoire, on ne voit que des hommes. Car en préhistoire comme en histoire, les femmes ont été systématiquement invisibilisées par les institutions académiques. Une idéologie de la domination masculine forgée depuis la Renaissance et renforcée au cours de ce qu'on appelle la modernité. Le genre humain, il se distingue comme le plus coercitif, le plus contraignant vis-à-vis de ses femelles, mais depuis quand? Et que sait-on vraiment de l'évolution des femmes dans la diversité des sociétés d'hier et d'aujourd'hui? Des questions passionnantes qui seront explorées mardi et ça se passera dans l'auditorium des Champs Libres, un événement qui est gratuit, également diffusé, tiens, on le dit, sur la page YouTube de l'Espace des Sciences. Plus d'infos sur cette conférence sur le site espace-science.org. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de La Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.